Oui, alors la première a été plutôt bonne parce qu'il était quand même arrivé dans une situation un peu de crise. Après tout ce qui s'était passé, les expériences de Rangnick, de Solskjaer, même de Mourinho avant ça. La saison dernière, ils finissent troisième, ils gagnent cette Coupe de la Ligue. Ils sont battus par City en finale de la Coupe d'Angleterre. Donc c'était la deuxième finale de suite entre les deux clubs de Manchester. Cette saison, moi, j'ai trouvé qu'il l'avait abordé avec suffisance déjà. Qui s'était dit, voilà, on m'avait dit que c'était l'enfer, Old Trafford, que c'était personne ne pouvait réussir à ce poste-là. Ben, regardez ma première saison, et je pense qu'il a attaqué cette deuxième saison avec un peu de légèreté, sincèrement. Ensuite, il a eu beaucoup de blessés, ça c'est sûr, il faut le reconnaître et l'admettre. Mais quand même, dans le contenu des matchs, dans les performances tactiquement aussi, alors Yoann et moi, et Polo, qui l'avons eu, enfin, qui le connaissions soit de l'équipe réserve du Bayern, soit bien sûr à l'Ajax. On était des grands fans quand il est arrivé à United. Cette saison, je suis désolé, j'ai vu plus d'espace entre sa défense et son milieu de terrain que j'ai jamais vu dans une équipe de ce niveau-là depuis très très longtemps. Voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. Et c'est pour ça que finalement, on est là à parler de son avenir à lui, d'avoir ce débat sur son futur, parce qu'il y a trop de choses qui ont été insuffisantes cette saison, malgré les blessures, malgré ce qui s'est passé lors de la première saison, c'était pas assez bon. Et lui, il l'a reconnu. Et ce qu'il imaginait le plus cette saison, finalement, et j'en avais déjà parlé, je ne vais pas trop en faire non plus sur Ten Hag, c'est que même lui a été dans le déni finalement. À chaque conférence de presse, surtout depuis l'arrivée d'Ineos, c'est comme s'il essayait de convaincre ses nouveaux patrons qu'il fallait le garder absolument. Donc, c'est un inventeur. Il racontait des histoires. Il inventait des trucs. Il racontait des choses dans ses conférences de presse qui n'étaient pas vraies. Comme, par exemple, on est l'équipe qui presse le mieux dans le championnat. Bah non, c'est pas vrai. On a les stats qui peuvent te montrer que c'est pas vrai. On est l'équipe la plus spectaculaire. Bah non, c'est pas vrai non plus. On est celle qui se crée le plus d'occasions. Bah non, c'est pas vrai non plus. Donc, et à chaque fois, il rajoutait un truc qui n'était pas vrai. Et je pense que ça, il a pensé que ça pouvait lui servir, finalement, pour convaincre Radcliffe et les autres de le garder. Et au final, sincèrement, je pense que ça a été contre-productif.
Et Julien, bon, encore j'ai une question. Est-ce que tu ne penses pas que ces coachs qui ont souvent des égos aussi importants, sinon plus que beaucoup de joueurs qui sont des stars, refusent de voir la vérité ou refusent de voir leur propre évolution parce qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'eux qui ont le savoir.
Non, je suis
Je sais
tout à
pas
fait d'accord avec toi.
si c'est... Bon, Ten Hag, évidemment, on n'imagine pas ce que Ten Hag représentait il y a encore quelques années au Bayern. Le fait d'être passé, le fait de l'école néerlandaise, etc., on l'a souvent récupéré. Aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. On l'a évoqué rapidement pour le Bayern, mais on n'en voulait pas. Alors que le gars était, il y a encore quelques années, considéré comme le top 3 des nouveaux entraîneurs qui arrivaient sur le marché pour les grands clubs. Aujourd'hui, voilà. Mais moi, ce qui me frappe, parce que Tuchel est un peu pareil, parce que d'autres qui ont échoué, Hansi Flick est un peu pareil, c'est que quand ça marche pas, c'est toujours les autres.
C'est pas de leur faute, exactement.
Il y a un truc là-dessus, moi, qui me...
Une forme d'arrogance, ou alors c'est de la
moi,
communication.
Je trouve juste qu'au final, pour ces grands clubs-là, et c'est pour ça que cet été, c'est très possible que Conte... Alors, Conte pourrait rebondir à Naples, mais bon, je pense que ces clubs-là, maintenant, ne veulent plus d'un entraîneur qui se veuille tout-puissant, qui soit au-dessus de tout, comme un Ferguson, comme un Wenger, voire comme un Guardiola encore, bien sûr, ou même un Klopp pendant les 9 saisons à Liverpool, mais pour moi, de plus en plus, on ira vers des clubs qui
ça.
Choisiront des entraîneurs qui travailleront dans une structure, qui seront très contents dans cette structure-là et qui voudront plus se sentir au-dessus de tout le monde.
Et qui
finalement.
Seront plus dociles.
D'où l'échec de Pochettino à Chelsea,
okay.
Par exemple.
D'accord, exactement. Alors justement, Pochettino, puisque tu en parles, c'est la transition. Il est fortement pressenti pour prendre la succession de Ten Hag à United. Sitôt licencié, sitôt en poste, peut-être pour lui. Est-ce que tu confirmes, Julien?
Oui, il fait partie de la shortlist avec Thomas Tuchel, par exemple, qui a été très, très apprécié à Manchester United. Kieran McKenna, qui est donc l'ancien entraîneur adjoint de Mourinho, de Solskjaer, qui a fait un excellent travail avec Ipswich, puisqu'il les a fait monter de 3e division en Championship, ensuite du Championship en Premier League cette saison-là. On en a beaucoup parlé, jeune entraîneur avec beaucoup, beaucoup d'idées, qui, lui, est très content de s'inscrire dans la structure. Lui, il ne veut pas être le tout-puissant au-dessus de tout le monde, l'entraîneur qui doit te dire oui pour que si tu veux acheter un stylo pour le centre d'entraînement ou tu veux. Lui, il n'est pas du tout comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il va peut-être rechercher Manchester United, plus qu'un Pochettino, plus qu'un Tuchel, qui eux sont encore un petit peu dans ces personnalités-là. McKenna, c'est différent. Roberto De Zerbi est aussi sur la liste, mais un petit peu décroché par rapport aux trois autres. Mais on pourrait voir effectivement Pochettino rebondir tout de suite de Chelsea à United, même si je pense qu'aujourd'hui, McKenna est le favori pour tout ce qu'on vient de dire, pour s'inscrire dans cette structure-là, pour ce qu'il pourrait apporter sur le long terme, sa volonté de faire évoluer les jeunes aussi, un Mainoo, un Garnacho, etc., etc. Et donc ça pourrait, je pense que ça, McKenna pourrait très bien fonctionner aussi.
C'est intéressant ce que dit Julien, cette tendance là de certains gros clubs, alors pour le coup en Angleterre, ça m'intéresse de savoir si c'est un ressenti chez vous également, ces gros clubs qui désormais ne veulent pas donner tous les pouvoirs à un coach. Terminer l'ère des super managers hein, qui disent oui, qui disent non, qui décident de recrutement, qui bossent avec son entourage. Johan, est-ce que c'est le cas chez toi en Italie aussi?
C'est totalement le cas, c'est même plus que le cas puisque on a des clubs qui ne voulaient pas travailler avec Mourinho et Conte cet été, tout simplement parce qu'ils ne savent jamais à quel moment de la saison les mecs vont péter un câble. Et les dirigeants ne sont plus prêts aujourd'hui. On dit toujours, comme dirait Kylian, le football il a changé, donc les joueurs ont changé, le jeu a changé, les entraîneurs ont changé, mais les dirigeants aussi ont changé. Et aujourd'hui, nous en Italie, le foot des familles, des grandes familles italiennes n'existe plus ou quasiment plus. Donc il faut que ces entraîneurs-là aussi comprennent que, notamment avec l'afflux de dirigeants étrangers, de propriétaires étrangers, qui voient le football de manière un petit peu différente, le gagner à tout prix n'existe plus en Italie. Ce n'est plus possible aujourd'hui de dire « voilà les clés du camion à un entraîneur, t'inquiète pas, on va te suivre sur tout ». Ça n'existe plus nulle part en Italie. Donc il y a des entraîneurs aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés à retrouver un club en Italie parce que ces propriétaires-là voient le football et le poste d'entraîneur une figure. En Italie, on dit aziendalista, c'est-à-dire comme un, vous savez, la figure de salarié qui respecte un peu son patron. C'est-à-dire que finalement, il y a un rapport hiérarchique et aussi un rapport de respect à avoir vis-à-vis de son patron. Et on recherche ce type d'entraîneur-là, c'est-à-dire un entraîneur qui ne va pas dire oui à tout, mais qui ne va pas te dézinguer devant les micros à la fin d'un match.
Fred.
Bah, en Espagne, de toute façon, il n'y a pas ce rôle de manager, ça n'existe pas.
Enfin, Ancelotti, par exemple, lui n'est pas un grand manager.
Mais c'est-à-dire que c'est pas lui qui décide.
Il accepte les joueurs qu'on lui donne.
Mais ils sont tous comme ça en Espagne. Ça. Parce que même, alors, il y a un exemple qu'on pourrait présenter comme contre-exemple, qui est Simeone. Oui. Mais pas tant que ça. Parce que quand il fallait laisser Griezmann sur le banc pendant 25 matchs parce que ça permettait à l'Atletico de payer moins cher au Barça, etc., et ben il s'est privé de Griezmann. Donc voilà, sous ses airs, il a...
Mais les présidents ont plus de pouvoir chez toi aussi, parce que ce sont les socios qui élisent les présidents.
Aussi, ça aussi.
Et ce sont les présidents qui rendent des comptes plus que les entraîneurs.
Et c'est lui qui joue sa tête. Donc voilà. Donc, on a parlé de Xavi tout à l'heure. C'est ça, finalement, c'est le président qui décide. C'est lui qui a le mandat des socios. Donc on n'est pas du tout... On n'est pas du tout en Espagne dans cette logique-là.
Polo, tu ressens ce glissement chez toi ou traditionnellement est-ce que...
Ah non.
Vas-y.
En fait, c'est très spécial parce que le Bayern, par exemple, est l'exemple type... excepté la période Guardiola 2013-2016, où les coachs se plaignent de l'omniprésence, de l'omnipotence dans les bureaux, d'Uli Hoeness, Rummenigge, du directeur sportif qui sort des phrases à tout le temps. Moi, c'est quelque chose, c'est une vraie différence avec la France, par exemple. J'ai pas envie de comparer avec les autres pays européens, mais je peux vous assurer que les directeurs sportifs, lorsqu'ils sont pas contents en Allemagne, ça sort et ça balance à la Kalachnikov, quoi. Ça y va d'une façon extrêmement violente. Nagelsmann se plaignait, il dit « je peux pas rester 15 jours tranquille ». Le recrutement, ce n'est pas eux. Le seul qui a réussi à le faire, c'est Guardiola entre 2013 et 2016, pour une question bien spécifique, c'est qu'il y a eu l'effet Pavarotti. C'est-à-dire que le Guardiola n'arrivait pas seul en tant que coach, il arrivait évidemment avec tout son staff, et il a viré d'ailleurs tout le monde, tous les Allemands qui étaient là-bas pour ne mettre que des Espagnols, mais surtout il y avait des sponsors qui débarquaient parce que le Bayern était devenu super attractif au niveau de la globalisation avec Guardiola. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend des clubs et de la structure des clubs. Il y a des personnalités, alors maintenant tout le monde l'a oublié en Allemagne, où les jeunes ne savent pas qui c'est, mais un Félix Magath ultra présent et qui lui veut être manager à l'anglaise, faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'aujourd'hui ça n'existe plus dans les clubs? Donc, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Bayern Munich, c'est l'inverse de la tendance qu'il y a eu pendant des années.